Son, un univers sonore, la société contemporaine est-elle palpable, est-elle réelle, quand elle vibre dans les oreilles d'un créateur? Ce soir, nous en discuterons avec un Français qu'on écoute partout et qui s'appelle Cascadeur.
Ah, check this out.
Encore heureux, du lundi au jeudi sur France Inter, à partir de 17h.
France Inter, la voix est libre.
15h04 sur France Inter, tout de suite l'heure de retrouver Là-bas si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Camarades ukrainiens, ne perdez pas courage. Le soleil perce et vient au milieu des nuages. Et pris de liberté et sans céder au doute, voici un chevalier qui vous ouvre la route pour vous couvrir de gloire. Un sauveur est parti. Vous n'allez pas le croire. Bernard-Henri Lévy !
Serge Dassault placé en garde à vue. Putain, un vrai bonheur. Bonjour, bonjour. Vous avez très certainement vu l'opération spectaculaire de Greenpeace ce matin devant l'Elysée qui a déversé 5 tonnes de charbon et de l'eau trichée. Ce dont vous avez peut-être moins entendu parler, c'est qu'aux États-Unis, une femme, une nonne, une religieuse de 84 ans vient d'être condamnée à 35 mois de prison parce qu'elle avait réussi à entrer sur une centrale nucléaire au Tennessee et qui apparemment était la centrale nucléaire la mieux surveillée des États-Unis. Donc une nonne de 84 ans en prison. À mon avis, elle devait sûrement porter une grande barbe. Ils ont raison de se méfier des barbus.
Salut les AMG de Mélan et de la région de Grenoble. L'imagination peut-elle revenir au pouvoir? Vous en saurez peut-être plus le mercredi 19 février à 19h au repère de Mélan. Nous discuterons de l'avenir des SCOP, alors qu'en ce moment même, au-dessus de la tête des Européens, se négocie dans le plus grand secret un grand marché transatlantique avec les USA. Les SCOP, utopie ou réalité? Venez en débattre avec Charles Piaget et Laurence Ruffin le mercredi 19 février à 19h au Resto Bio à Mélan, à côté de l'Hexagone.
Non mais là, Daniel, tu me déçois là. Là, tu déconnes. Non, mais une heure, enfin presque, sur la Tunisie, et pas un mot de Michel Bouchna. Non, mais tu déconnes, là, Daniel.
Ah, décidément, j'adore tes petites annonces, ta petite boîte vocale. Là. Tous ces gens qui s'expriment, là, c'est passionnant. Alors, des fois, on comprend pas tout. Des fois, on s'énerve, on n'est pas d'accord. Mais il y a vraiment de la pertinence. Là. Salut.
Bonjour Daniel, je te remercie pour tes émissions. Je voudrais te lire un passage d'un livre de Pierre Mendès France, La vérité guidée leurs pas. À la fin du livre, il fait un bilan et de la situation après la crise de 29. Et il dit, comme les autres pays, la France avait souffert de la crise mondiale et connaissait, bien qu'à une moindre échelle, les mêmes problèmes. Mais la droite classique, qui se perpétuait au pouvoir, croyait lutter contre la récession par des recettes traditionnelles de la déflation et sans procéder à aucune réforme. Les gouvernements d'Oumergue et Laval ne cherchaient qu'à restreindre les dépenses de l'État. Remède pire que le mal, du fait de ces mesures, se traduisait par une nouvelle réduction du pouvoir d'achat et n'avait pour effet que d'amplifier la crise, d'accroître les souffrances des travailleurs, des classes moyennes et de la paysannerie. D'où un climat explosif que l'extrême droite exploitait pour entretenir une agitation permanente. Ce passage décrit une situation d'entre-deux-guerres qui nous a mené au nazisme et au fascisme bien installé en Italie déjà. Je pense qu'on en est au même point aujourd'hui, qu'à force de nier l'histoire ou de la transformer, on en est toujours au même point et on reviendra toujours au même point. Au lieu d'abattre le mur qui nous empêche de passer, eh ben nous le contournons à chaque fois et nous revenons chaque fois devant le mur.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Bravo et merci. Notre cri du jour. Entre ici, Joséphine. De quoi il s'agit? Du Panthéon. Et qui est cette Joséphine? C'est Joséphine Baker. Joséphine Baker au Panthéon! Vous imaginez ça? Provocation, profanation, cette danseuse nègre et nue. Hormis quelques bananes, vous l'imaginez à côté de Jean Moulin ou de Condorcet? profanation, provocation. Et pourtant, l'idée vient de Régis Debray. Au moment où, vous le savez, plusieurs noms sont avancés pour figurer sous la sombre coupole. Et beaucoup de noms de femmes, puisque le projet est de panthéoniser une femme. Vous savez qu'il y en a très peu au Panthéon. Alors, Joséphine, c'est une blague ou pas? Eh ben, vous allez voir avec Guy Ventil, on est parti à la découverte ou à la redécouverte de celle qui fut sans doute portant une ceinture de banane, excitant, allumant, enchantant elle tout Paris des années 30 avec la Revue Nègre, qu'elle dansait devant les surréalistes qui en étaient fous, les Picabia, les Desnos, le vieux père Sandrars qui était dans un coin, qui était pas encore bien vieux d'ailleurs à l'époque, et tout ce monde a adoré cette Joséphine Baker. Mais elle ne fut pas que cela, vous le savez peut-être. Elle fut une héroïne de la résistance, une militante antiraciste aux côtés de Martin Luther King, une amie de Fidel Castro, une mère d'adoption pour une douzaine d'enfants rescapés des quatre coins du monde. Bref, Joséphine Baker, aujourd'hui, le portrait d'une femme qui fut à la fois la tête et les jambes. En matière de femme, mais c'est l'un ou l'autre, hein. C'est ou bien sexy, bien roulé, et voilà, d'un côté, ou bien une intellectuelle. Mais les deux à la fois, eh ben, c'est très rare, et c'était le cas de Joséphine Baker. Voilà pourquoi nous disons « Entre ici, Joséphine ». C'est notre thème du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis, bonjour à tous les auditeurs de France Inter. Avec Martin Garcia, spécialisée en ressources humaines et intervenante sur les sujets de lutte contre les discriminations, notamment au travail, le Repère d'Aubagne abordera pourquoi le combat féministe est-il un sujet d'actualité toujours et encore en 2014. Tous les AMG, les habitants d'Aubagne et du Pays de l'Étoile, sont invités jeudi 20 février à 19h30. Salut.
Je viens d'apprendre qu'un humoriste prétendument de gauche qui a travaillé longtemps sur Inter avant d'être gentiment remercié par un directeur des programmes avisé présente son nouveau spectacle Didier Porte à droite au 20e théâtre à Paris du 19 au 23 février. Alors je me suis dit que compte tenu de son retournement de veste idéologique et pour éviter qu'il ne fasse un jour des pubs pour le Crédit Lyonnais ou le CIC, nous serions peut-être avisés, nous les AMG, d'aller lui glisser une petite pièce dès vendredi, au 20e théâtre. En plus, le vendredi, il y a Arthur à la télé. Ça fait une troisième bonne raison d'aller voir Didier. Merci l'équipe de là-bas, si j'y suis, de nous faire respirer tous les jours entre 15h et 16h.
Insomnie. Le veilleur de jour fait des insomnies. Uniquement le jour. Heureusement pour lui. C'était le poète à peine réveillé. Salut.
J'aime la joie de vivre.
Bonjour.
Je ne m'ennuie jamais.
On va faire une visite ensemble qui va durer à peu près trois quarts d'heure pour comprendre un peu ce qu'est finalement le Panthéon.
Si ça vous gêne pas, évidemment, si ça vous gêne, je ne le ferai pas. Mais je sais que ça vous gêne pas. Mesdames et messieurs, je voudrais vous demander quelque chose.
En ce moment, on est un peu dans les feux de l'actualité, puisque le président Hollande, à la fin de l'année dernière, a demandé à une commission de plancher sur l'idée de pouvoir panthéoniser une femme.
Vous voulez, si vous êtes curieux. Oui, alors, attendez un peu.
On a parlé de Louise Michel. On a parlé aussi de Joséphine Baker et puis de quelques autres.
C'est-à-dire.
Excuse-moi, mais qu'est-ce que vous avez dit? Baker.
Baker.
Non.
Ah, comment dit-on?
Baker.
Alors, Baker,
mais
pardon.
Bien.
Et maintenant, mesdames et messieurs, maintenant, je voudrais vous demander quelque chose.
Enfin, je sens que je suis quelque chose et quelqu'un, et égal à des autres, malgré que mon couleur n'est pas la même.
On verra au final qui entrera au Panthéon et peut-être d'ici à la fin de l'année, eh bien Marie Curie ne sera plus la seule femme panthéonisée.
Qu'est-ce que vous avez dit ?
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Vanquetil. Entre ici, Joséphine.
Flight number 2, arriving from New York.
Marcel, vous m'avez dit justement maintenant que j'étais un soldat extraordinaire. Ce n'est pas vrai. C'était simplement une seule façon que j'ai eue, moi, de remercier aux Français pour tout ce qu'ils ont fait pour moi.
Et enfin, n'oublions pas non plus que c'est Joséphine Baker qui préside aux réjouissances. Joséphine, pleine de dynamisme et qui a abandonné ses poireaux et ses vaches pour redevenir l'étonnante animatrice que nous connaissons bien, Joséphine, qui va nous raconter sa vie.
Nous voici tout en haut des marches du Panthéon, face à la rue Soufflot, avec dans la perspective le Sénat au milieu du Luxembourg et tout loin derrière la Tour Eiffel. À ma gauche, la mairie du 5e arrondissement, aussi appelée Château Thibéry. À ma droite, une partie de l'université de la Sorbonne et plein d'étudiants qui vont et qui viennent, des touristes avec leur appareil photo et leur carte. C'est assez tranquille. Il faut dire qu'il y a une toute petite entrée pour entrer dans le Panthéon. Il faut dire aussi que le Panthéon, en ce moment, il est méconnaissable parce qu'il a une espèce d'énorme chapeau métallique, un échafaudage de plus de 300 tonnes qui le recouvre parce qu'il est en travaux. Et pourquoi on est ici ? Parce que cet endroit bien tranquille du 5e arrondissement, bien tranquille, est le sujet de débats passionnés dans la presse éditoriale. Notre président François Hollande doit nommer d'ici très bientôt de nouveaux entrants. Ça fait partie des prérogatives des présidents, des nouveaux entrants pour venir s'installer au milieu des grands hommes à qui la patrie est reconnaissante. C'est ce qui est écrit sur le fronton. Et nos grands hommes, ça risque cette fois-ci, d'après le rapport qui a été remis au président de la République, ça risque d'être une grande femme. C'est là où on rentre dans le vif du sujet et dans les débats.
Hey, ce serait quand même plus gai comme ça, le Panthéon, hein ? Hop, conga ! Ici, la tombe d'André Malraux. Ici, Pierre Curie. Ici, Henri Grégoire, l'abbé Grégoire. Ici, René Cassin, Jean Moulin, Jean Monnet. Oui, Braille, ce serait quand même moins sinistre, moins triste, hein ? Un petit peu d'exotisme, un petit peu de piquant, un peu de rythme, si Joséphine Baker était honoré dans cette auguste verrue qu'est le Panthéon. Verrue, oui, parce que, au moins sous un angle qui est celui de l'absence totale de femmes, Guy vient le dire, il y a quelques femmes, mais généralement c'est parce qu'elles sont les épouses d'un homme. Par exemple, c'est le cas de Marie Curie. Bon, elle est avec Pierre Curie, mais les femmes sont peu nombreuses dans ce Panthéon. D'ailleurs, sur le fronton, on lit en effet « aux grands hommes, la patrie reconnaissante », c'est pas aux grandes femmes. Voilà pourquoi il est question prochainement qu'une femme soit honorée et soit panthéonisée. Alors, c'est vrai que celle auxquelles on pense et pour qui, pour lesquelles certains militent, sont tout à fait dignes et remarquables. Olympe de Gouges, Geneviève Antonios de Gaulle, Germaine Tillon, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Lucie Aubrac, Simone Veil, Louise Michel, Simone de Beauvoir. Je remarque que là-dedans, il y a énormément de femmes de gauche, voire de gauche très radicales. Donc, évidemment, c'est intéressant. Mais il y a aussi l'idée de Joséphine Baker. Alors, ça fait sourire. C'est celle qui a commencé avec les bananes et qui a fini avec le régime, selon la formule consacrée. Mais on voit que c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Et c'est un cas de figure féminine. Et j'oserais dire féministe, qui allie le charme, la beauté, la sensualité, même la sexualité, pour ce qui concerne toute sa période de bal nègre et de danse, etc. Et puis, une femme militante, engagée, qui sait exactement ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, et ce à quoi elle pense. Bref, une femme remarquable, Joséphine Baker, au Panthéon. Entre ici, Joséphine.
Brigitte Debré, qu'est-ce qui vous a pris avec cette histoire de Panthéon ? L'avantage, en tout cas, de cette déclaration que vous avez faite dans Le Monde, c'est que c'est pour beaucoup de gens, par exemple de ma génération ou beaucoup d'autres, ça a fait ressortir tout un pan de la personnalité de Joséphine Baker qui était, moi je vous l'avoue, parfaitement ignorée. J'avais comme beaucoup l'image, justement, la revue Nègre, la charmante demoiselle qui montre ses seins et qui provoque, qui a tout de suite le soutien et l'admiration des surréalistes. J'ai aussi une star, comme la France n'en avait pas eu beaucoup à l'époque, un peu fantaisiste avec ses 12 enfants, mais bon, ça ressemble un peu à ce que fait Brad Pitt et Angelina Jolie aujourd'hui. Et voilà que, suite à votre tribune, on ressort justement son passé d'engagement d'une femme qui ne s'est pas beaucoup trompée en fait.
C'est une femme qui danse, qui chante et qui se bat, qui n'est pas admise par tous. Et pour cause, parce que ce n'est ni une intello, ni une martyre, ni une savante. Ce n'est pas Simone de Beauvoir, ce n'est pas Olympe de Gouges, ce n'est pas Germaine Tillion. Bon. Et pourtant, je crois que le geste tournerait la cérémonie commémorative vers le futur. Avec une femme qui a toujours vécu au futur antérieur, je veux dire avec un temps d'avance sur son temps à elle. En sorte que elle se retrouverait en plein dans notre temps à nous. Quand la France d'avant-guerre était pudibonde, elle n'a pas eu honte de son corps, elle en a même fait une œuvre d'art. Quand la France de la guerre en 1940 était pétainiste, elle a rejoint dès 1940 la France libre, lieutenant de l'armée de l'air de la France libre. Quand la France, après-guerre, était encore inconsciemment raciste, elle a fondé une famille à arc-en-ciel avec des garçons et des filles de toutes les races et de tous les continents. Quand on chipotait ou quand on chipote pour donner la nationalité à nos immigrés, cette américaine s'est fait naturaliser française pendant le Front populaire. Et quand les Français n'aiment plus vraiment leur patrie, elle dit honneur et patrie. J'ai deux amours, mon pays et Paris, mais je crois que c'est bien de mettre le mot amour au pluriel, et ce serait bien de mettre Joséphine Baker au Panthéon, voilà tout.
Bonjour.
Bonjour France Inter.
Bonjour.
Vous venez
de l'Aveyron.
De l'Aveyron ?
Ouais. On est monté à Paris pour visiter un petit peu.
Mmh.
Et on est venu voir le Panthéon.
Est-ce qu'il y a un résident particulier que vous êtes venu visiter ?
Je suis venu voir Marie Curie et Victor Hugo. Marie Curie parce que je l'admire et Victor Hugo parce qu'il avait de très jolis poèmes, notamment celui sur sa fille Apolline qu'il a perdue, qui me rappelle beaucoup de choses.
Ben, il y a beaucoup de généraux d'Empire et de...
On ne connaît pas. Il y en a qu'on ne connaît pas, hein, mais bon. Ces histoires, c'est pas pour rien, certainement.
Et est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y a un débat ? Parce que notre président, il va nommer des nouveaux résidents.
Et qui c'est qui propose ?
Il y a eu des débats, pas possible, vous imaginez, entre historiens, intellectuels. Et il y en a un, je ne sais pas si vous connaissez, Régis Debray, oui, qui a dit qu'il faudrait mettre Joséphine Baker.
Joséphine Baker, elle a fait de très belles choses, mais tout.
Non, je ne pense pas qu'elle ait sa place.
Non, moi non plus.
C'est plutôt artistique, showbiz, ouais, c'est pas du tout pareil. On peut pas comparer avec un Jean Moulin, quoi, je veux dire. Non, et puis c'est pas le même dévouement non, vis-à-vis de la nation. Ça n'a pas le même rapport.
Vous pouvez mettre Edith Piaf à ce compte-là.
Non, ce lieu, je pense que mérite, et il faut avoir quand même fait quelque chose.
Et si je vous disais que Joséphine Baker, elle a 5 médailles de la résistance, parce qu'elle a été, du premier jour, engagée pour la libération de la France contre le nazisme.
Ah, c'est pas par rapport aux enfants qu'elle a adoptés contre la... Ah, alors là, le...
Non, je retire ce que j'ai dit. Personnellement, je ne savais pas. Et c'est vrai que moi, je la vois plutôt en train de danser avec les bananes que... Je ne savais pas. Moi, je la voyais showbiz.
Elle a sa place, hein. Elle a sa place. On ne sait pas tous, il faut tout nous dire, hein.
Bon, j'ai appris un truc ce matin, c'est cet après-midi, ça y est. On va continuer.
Bon, bah, bonne visite. Au revoir.
Vous savez, les révolutionnaires n'ont pas tous le couteau entre les dents ou la kalachnikov dans la main. Joséphine Becker était une révolutionnaire à sa façon. Elle l'a été dans le domaine esthétique, elle l'a été dans le domaine politique. N'oublions pas ce qu'elle a fait pour le mouvement des Noirs américains, au point de se faire jeter par les palaces de New York et d'ailleurs. N'oublions pas ce qu'elle a fait pour les guérillas d'Amérique latine et pour l'indépendance des peuples en général. Moi, je l'ai rencontrée à la Tricontinentale en 1965 à La Havane. Elle n'était pas là en star, elle était là en invitée. Elle a d'ailleurs joué, elle a d'ailleurs donné un spectacle au Théâtre Chaplin, je crois me souvenir, à l'époque. Mais ce n'était pas du tout une amie personnelle. C'est quelqu'un que moi-même j'ai découvert après coup, car on se saluait poliment dans les couloirs avec gaieté, mais enfin je ne me serais pas permis de lui poser des questions. À vrai dire, à l'époque, je ne pensais pas du tout aux bananes et au spectacle. Voilà.
L'icône de la société du spectacle, si on peut dire, qu'elle représentait, a été célébrée comme telle en gommant toutes ses aspérités. Toute l'image, depuis sa mort en 75, toute l'image qui a été vécue d'elle, c'était justement quelque chose de très lisse, alors qu'elle, elle a pris de front beaucoup de ses combats. Elle a été persona non grata pendant les années Hoover et pendant les années McCarthy aux États-Unis. Elle a des fiches de renseignements à peu près partout.
Bah, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup trouvé de saltimbanque, de Maurice Chevalier ou de Tino Rossi dans la France libre. On trouve Jean Gabin en 44.
Pierre Dac,
mais elle rentre dans les services d'intelligence dès 40. C'est tout de même assez rare chez les gens du spectacle.
Non. Il y avait Matahari avant.
Oui. Enfin, voilà. Non, je crois que ce serait pour une société comme la nôtre, complètement américanisée, à la botte de l'Empire, ce serait une façon de leur dire que nous, oui, nous avons eu des Américains qui ont travaillé pour la France. Donc c'est vrai qu'elle avait beaucoup de cordes à son arc, mais elle en cachait certaines, non pas par goût de l'occultisme, mais simplement, elle était un peu comme nous tous, je ne dirais pas schizophrène, mais divisée, elle avait plusieurs personnalités, et comme elle a eu plusieurs amours, et c'est notre condition à tous aujourd'hui. Donc, il importe, me semble-t-il, d'ouvrir le spectre du panthéonisable. Voilà. Il importe de décongeler cette crypte funéraire, d'y mettre de l'aujourd'hui et du demain, et pas seulement de l'hier ou de l'avant-hier. Voilà.
Dans l'esclavage et sous les coups nuit et jour. Oh, Mayari, Mayari, homme courbé va sans espoir, sans amour. Mayari, Mayari, comme le cygne qui plaintif chante et meurt. Oh, Mayari, Mayari, dans chaque mot de tes refrains passe en pleurs. Oh, Mayari, Mayari,
Monsieur Soupet, poésie de commenter en français de la nef. Bonjour. Alors, on va faire une visite ensemble qui va durer à peu près trois quarts d'heure pour comprendre un peu ce qu'est finalement le Panthéon. Alors le Panthéon, c'est un monument, si vous voulez le comprendre, c'est très facile. Quand vous entrez ici, ça ressemble plutôt à une église, parce qu'au départ, on a construit une église. Le roi Louis XV est tombé malade. Et il a fait le vœu que s'il guérissait, il reconstruirait une église. Combien d'années il faudra pour construire le monument, à votre avis? Oui,
30 ans.
30 ans, un peu plus.
32 ans pour construire le monument. On commence les travaux en 1758, on les termine en 1790, pile pendant la Révolution française. Donc vous vous retrouvez avec un monument qui est tout beau, tout neuf, et les députés de l'Assemblée constituante vont chercher des idées. À quoi ça pourrait servir ici ? Il y a une idée qui va arriver, pourquoi pas faire un panthéon français ? Vous allez inhumer des gens dans la crypte, c'est une sorte de cimetière, le panthéon. Et le but d'une panthéonisation, ça reste toujours valable aujourd'hui. Vous allez inhumer une personne en crypte, pas parce qu'elle est célèbre, c'est pas le but premier. Sa célébrité, ça l'aidera à rentrer ici peut-être. Mais surtout, c'est que cette personne, quand vous allez l'inhumer en bas dans la crypte, c'est parce que cette personne va représenter des valeurs de la nation française. Elle va devenir un exemple à suivre pour les générations futures. Voilà ce qui fait rentrer les gens au panthéon. Et alors, ben, par exemple, quand vous êtes en crypte, si vous arrivez à côté du caveau où il y a Victor Schœlcher, ben, vous penserez tout de suite « abolition de l'esclavage ». Ou si vous allez à côté de Jean Moulin, vous penserez quoi ? Résistance, tout à fait. Voilà, c'est ça l'idée de la panthéonisation. Vous donnez des exemples à suivre.
Bah, Joséphine Baker.
Bah oui,
un exemple à suivre. Joséphine Baker, un parcours magnifique. Cette femme née aux États-Unis, métisse, mais métisse aussi amérindienne, ce qui est moins souligné dans son histoire, qui arrive à Paris très tôt, qui embrase littéralement Paris par ses danses, par son corps, par son imagination, par son humour aussi. Et bien sûr que la ceinture de banane, c'était un gag, c'était pour faire rigoler le monde, et qui ensuite, et en même temps, va devenir cette femme engagée, comme dit Régis Debray, une révolutionnaire à sa façon. Alors, il y a des aspects quand elle est à la manif du 30 mai 1968 du côté gaulliste. Mais bon, c'est une héroïne de la résistance, très très courageuse. Elle est à côté de Martin Luther King. Elle est vraiment de toutes les bagarres et d'une générosité absolument totale jusqu'à sa mort quasiment en scène. C'est une très très grande artiste, il ne faut pas l'oublier, une chanteuse absolument remarquable. Bref, vous avez compris, pour nous c'est Joséphine, entre ici Joséphine, et c'est un peu le point de vue de l'un de ses enfants, ses 12 enfants qu'elle a adoptés, dont celui qui est sans doute le plus engagé dans cette histoire, Jean-Claude Bouillon Baker.
Jean-Claude Bouillon Baker, je vous retrouve pas très loin du Panthéon, en fait. On est à un jet de pierre dans un café en face du Luxembourg. Vous êtes un des enfants de la tribu arc-en-ciel.
Oui, c'est ça. Je suis le cinquième enfant de la tribu arc-en-ciel, nom qui a été donné par Joséphine elle-même à sa ribambelle d'enfants qui étaient 12 des quatre coins du monde, comme vous le savez, adoptés dans les années 50-60, et de religions, de races différentes pour symboliser une possibilité de fraternité universelle. Voilà.
Et alors, juste par curiosité, vous êtes de quelle race et quelle religion, du coup, dans cette fratrie ?
Alors, d'abord, ma mère n'aimait pas beaucoup le mot race, parce que c'était devenu complètement péjoratif à une époque, donc elle prônait seulement la race humaine. Et moi, pour répondre à votre question, je suis le français, parce qu'il en fallait un quand même, né à Paris. Voilà.
Jo, chérie, enlève Rosalie.
Oui, ma chérie.
Merci bien.
Viens, Rosalie.
Viens, mon cocotte, viens.
RTF.
Et toi, viens, Moïse, mon chéri. Voilà, Moïse.
1956.
Moïse, dis bonjour, mon poulet. Bonjour. Voilà, donne sa petite manotte. Waouh, mon chéri.
Alors, qui est Moïse ?
Moïse, c'est notre petit garçon qui est ici, vous voyez bien, qui est beau comme tout. Attendez, non, pas sur papa, chéri. Non, jetez pas les pierres. Viens. Jarry, qui vient de Finlande. Il y a Akio, coréen. Il y a Louis, qui est colombien, japonais, Jeanne. Viens Moïse, qui est parisien. Et après, il y a aussi Jean-Claude, qui vient de Paris aussi. Il manque simplement le tout petit indien que nous allons chercher dans 2 ou 3 semaines au Mexique.
Comment est-ce que vous avez été amené à les choisir, à les adopter pour les faire vivre ici ?
Choisir, ce n'était pas difficile, puisque je me trouvais dans le pays. Et alors, justement, parmi tant d'enfants abandonnés, parce que j'avais voulu simplement ceux qui étaient abandonnés.
Oui, naturellement.
Parce que naturellement, il me semblait qu'eux, ils avaient besoin d'une maman d'affection, maman et papa. Attention, chérie, Thérèse, chérie. Attends, voilà. Ce que nous sommes en train de prouver du reste, parce que vous comprenez, vous, je suis sûre que vous êtes d'accord avec nous, que la question de différence de race là, n'existe pas. Nous croyons absolument et profondément qu'il n'y a qu'une seule race, et c'est la race humaine.
Alors, vous et vos frères et sœurs, comment vous avez réagi à cet article de Régis Debray, paru en décembre dans Le Monde, demandant à ce que votre mère entre au Panthéon ?
Alors, je dois dire que c'est vrai que, venant de la part d'un intellectuel reconnu, à prime abord, ça m'a un tout petit peu surpris. Finalement, il a ouvert une brèche. Ce n'est pas Joséphine Baker, c'est pas simplement un personnage de l'histoire du music-hall d'avant-guerre. C'est aussi quelqu'un qui a participé, qui est rentré en résistance au premier jour auprès de Gaulle, qui a été médaillé 5 fois à titre militaire, ce qui est absolument rare et rarissime, je crois, qui a pris la nationalité française en 37 par reconnaissance vis-à-vis de la France. Donc, pour en revenir à cette idée de panthéonisation, d'abord, ça permet de la faire découvrir, et non pas redécouvrir, mais découvrir tout simplement, aux jeunes générations notamment, de détailler ses combats, sa vie, cette trajectoire quand même époustouflante dans le XXe siècle. Il y a la guerre, il y a les colonisations, il y a la guerre du Vietnam ensuite, il y a le macartisme, tout ça, elle y a été confrontée. Elle les a pris à barre le corps, elle les a pris en pleine figure. Elle se les a coltinés, voilà. C'est ça, elle voulait le faire.
France Inter.
Joséphine Baker, vous savez que le président Johnson a repris dans son discours...
16 mars 1965.
Le mot d'ordre des manifestants noirs, ce mot d'ordre qu'ils chantent à chaque manifestation, « We shall overcome, nous triompherons ».
Je le sais, je suis tout ému parce que c'était naturel et ça devrait arriver. Mais il est normal, sans rien, on peut arriver à rien dans la vie. Il a compris que sans cela, il fallait le faire. Parce que le monde entier attendait ce geste de sa part. Et s'il ne l'avait pas fait, il ne serait pas méritant.
Joséphine Baker, vous savez cependant que la victoire n'est pas totale encore, puisqu'il reste des opposants dans les 6 États du Sud, l'Alabama, la Caroline, la Géorgie, la Louisiane, le Mississippi et la Virginie.
Mais écoutez, bien sûr que la victoire n'est pas encore, mais au moins, on commence. Parce que malheureusement, il y a des lois là-bas, les lois qui soutiennent la discrimination, qui soutient que l'homme n'a pas le droit parce qu'il est d'une autre couleur, ou sociale, ou religieuse, etc. Il faut que ça s'arrête.
Votre mère a une vraie constance dans l'engagement politique. Et ça commence avec le milieu dont elle est issue, cette Amérique noire et ségrégationniste en 1906.
Mais ça vient de très loin, l'engagement politique, je pense qu'il vient justement de l'enfance. Et son vécu a été très noir au sens propre du mot, c'est-à-dire très misérable. Elle est née dans à la fin de la nuit ségrégationniste quasiment, mais qui était encore très prégnante.
Il y avait encore les lois Jim Crow en vigueur dans le Sud, c'est-à-dire qui codifiaient la ségrégation.
Là, une apartheid totale, quoi, entre les Noirs et les Blancs dans les États du Sud. Et lorsqu'à 11 ans, c'est en 1917, on assiste à ce qu'on appelait les race riots, les émeutes raciales. Une rumeur court, un noir aurait violé une blanche. Et à ce moment-là, c'est la vengeance sourde et aveugle. On lynche des hommes, on éventre des femmes. Enfin, lorsqu'on vit ça et qu'on est noir, on ne peut pas l'oublier, évidemment. On est marqué au fer rouge. Et je crois que le moment où c'est ressorti vraiment viscéralement par tous les pores de la peau de ma mère, c'est à l'issue de la guerre, et non pas au moment de la guerre. C'est à l'issue de la guerre, et s'est aperçu qu'elle pouvait chanter pour les Américains, pour le théâtre aux armées américaines, par exemple, mais que les Noirs n'étaient pas admis dans les théâtres.
White only.
Vous vous rendez compte ? Les Noirs n'étaient pas admis, et elle, qui était noire, quand même, plus noire que blanche, en tout cas, elle retrouve à la fin de la guerre ce qu'elle a connu dans son enfance. Donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir toute une constance de Joséphine Baker qui va se braquer contre la politique américaine. D'intégration, j'entends. Hein. Et donc, le macartisme sévit, etc. Elle est fichée au FBI sous Edgar G. Hoover, comme socialisante, si vous voulez. Bon, si vous avez à cette époque, vous aviez à peine des idées d'intégration, etc. Vous étiez catalogué.
C'était vraiment l'époque de la chasse aux sorcières.
Donc, à ce moment-là, elle devient persona non grata. On la refuse sur le sol américain. Et donc, à partir de là, évidemment, ça va démultiplier ses combats. Ces adoptions en sont le socle humain, Et à partir de là, elle va rencontrer des chefs d'État qui sont non alignés. Et c'est pour ça que nous sommes rendus chez le maréchal Tito, qui était un non aligné, qui était un communiste, mais qui n'était pas sous l'obédience de l'URSS. Et en même temps, sa petite troupe, comme ça, sa tribu arc-en-ciel, qu'elle trimballe derrière elle.
Ça, vous avez été de beaucoup de ces voyages, de ces tournées.
Ah oui, on en a fait pas mal. On a été très marqué par Cuba parce que c'est un souvenir extraordinaire. Tout le monde convergeait vers Cuba à cette époque-là. C'était pas le Cuba d'aujourd'hui. C'était tout le monde y croyait à ce miracle cubain.
Hello, ladies and gentlemen. You know, I just came back from Havana, Cuba.
Je reviens de Cuba où il fait bon et chaud. Il y a des palmiers.
Tropical climate. Do I like that?
C'est un climat tropical que j'aime tant. Il y a une merveilleuse chanson que tout le monde chante là-bas, Esto es Felicidad, qui veut dire, mesdames et messieurs, ceci est le bonheur.
Yo te quiero, tú me adoras. Yo te adoro, me quieres, te quiero, me adoras. Te adoro, esto es felicidad. Tú me besas, yo te beso, tú me miras. Yo te miro, me besas, te beso, me miras, te miro. Esto es felicidad. Le
trompettiste Buck Clayton s'est approché sur le devant de la scène et Joséphine danse comme un serpent. La trompette semble vouloir la dresser, elle se lève et se laisse tuer par la musique, tombe sur le sol, se redresse, tandis que la foule, vous l'entendez, l'acclame.
Tu me quieres, la la la, tu me adoras, come on! Tu me quieres, me adoras, esto es felicidad, hey!
Cuba et Joséphine, c'est cette merveilleuse histoire d'amour, parce qu'elle a chanté sous la dictature pour le peuple cubain, j'entends bien. Il faut savoir quand même, pour se remémorer les choses, c'est que Cuba était sous la coupe des capos mafiosos américains. La Havane, c'est quasiment une fondation, une création mafieuse, si je puis dire, avec les grands hôtels du bord de mer, du Malecón, etc. Donc,
c'était ce qu'on appelle le bordel de l'Amérique.
C'était exactement ça, c'était l'expression qui a été utilisée, c'était le bordel des États-Unis.
Et donc, on avait besoin d'artistes comme elle pour faire des grands numéros dans les théâtres et...
Sauf qu'elle, on l'a refusée dans les hôtels, parce qu'elle était non persona non grata, on l'a considérée aussi comme une communiste et comme une négresse. Donc c'est pour ça qu'il y a deux ou trois hôtels à Cuba sur le bord de mer où il y a des plaques avec Joséphine Baker, ici, Joséphine Baker a été refusée, etc. Et ensuite, après la révolution en 51, il fallait revenir à Cuba, mais à plusieurs reprises. Donc, ils sont devenus assez copains avec Castro, quand même, finalement. Hein. Castro, le dernier jour, lorsqu'il est venu nous voir, il avait des uniformes de l'armée cubaine en miniature, c'est-à-dire à notre mesure.
Pour vous, les enfants?
Pour nous, les enfants, et des costumes de baseball. Et donc, on a joué toute l'après-midi avec des battes de baseball, à mettre les balles dans la piscine avec Castro, son état-major. Enfin, c'était un truc. C'est notre Père Noël du bout du monde, comme on l'a appelé ce jour-là. Et on l'appelait Tio Fidel, donc ça veut dire tonton fidèle.
Et j'ai lu aussi que non seulement elle avait participé à des manifestations sous Batista avec les jeunes mouvements pré-révolutionnaires cubains, et qu'après ça, justement, Fidel lui avait remis une médaille et un grade de lieutenant.
Parce que maman était considérée comme une bienfaitrice, toujours considérée comme une bienfaitrice du peuple cubain, ce qui est pas un vain mot là-bas. Hein. Alors c'est son panthéon là-bas, si je puis dire. Hein. Là-bas, c'est une grande histoire d'amour de maman avec Cuba. Et là-bas, elle est. Nous, on a été invités en l'an 2000 par le gouvernement cubain, ses enfants, en tant qu'enfant de une bienfaitrice de Cuba. Voilà. Donc ils ont une fidélité quand même à leur histoire qui est extra, assez remarquable dans ce sens-là. Joséphine, du jour au lendemain, elle a dit, tant qu'il y aura un Allemand sur le sol français, je ne chanterai pas en France. Elle est partie pendant 5 ans.
Ah oui, tout de suite, tout de suite.
La déclaration de la guerre, tout de suite. Elle a quitté sa maison qui était au Vésiné et est partie, ni deux. Hein. Elle s'est engagée tout de suite. C'est-à-dire qu'elle a sollicité tout de suite d'entrer dans les services secrets. Alors au début, les services secrets ont été un peu réticents. Et finalement, ils ont vu que cette femme était tellement ardente, etc., qu'ils ont commencé à lui donner des missions comme ça.
Et elle, ce qu'on appelait le deuxième bureau.
C'est exactement ça, c'est ce qu'on appelait le deuxième bureau. Et elle était ce qu'on appelait une honorable correspondante, qui voulait dire un synonyme d'espion, quoi, si vous voulez. Donc elle avait ses entrées, elle faisait parler les gens. À sa mesure, elle passait des renseignements, elle glanait des informations dans les ambassades, et on passait les informations des débarquements d'Afrique du Nord, etc. Elle les envoyait à Londres, et c'est pas faux de dire, sur les partitions de J2 Amour, l'encre sympathique.
L'encre sympathique, c'est l'encre invisible, c'est ça?
C'est cela, c'est exactement ça. Et ensuite, elle va donc participer au théâtre aux armées, sur tout le front, jusqu'à Damas, tout le front qui est la Libye, Tripoli, Damas, et bien même jusqu'en Israël, donc... Haïfa, etc. Et ensuite, elle remonte aussi, elle embarque mon père, qui n'est pas encore mon père.
Jean Bouillon.
L'orchestre, voilà. Et elle embarque jusqu'en Allemagne, donc jusqu'à la libération par les Alliés.
Je crois que j'ai quelques photos là sur cette période.
Et oh, regardez ça, c'est beau. Ça. Donc c'est je fais la guerre au centre d'un cocktail de l'armée de l'air. Donc vous voyez, elle est quand même rayonnante. Elle est. C'est génial. Alors, évidemment, c'était Joséphine là. L'honorable correspondante à Soudotte. Et en même temps, c'était Joséphine Baker. Donc, évidemment, les gens fondaient devant elle. Ouais, ça, c'est bon, regardez. Son uniforme, l'armée de l'air.
Lors du débarquement allié en 44, elle a, oui, la petite calotte sur la tête, le treillis.
Ça, c'est lorsqu'elle a une photo très belle, là, lorsqu'elle revient. Donc, le lieutenant Joséphine Baker avec le commandant Alain Duménil, des auxiliaires féminines de l'air.
Et donc, derrière elle, dans le bureau, on voit le portrait du général de Gaulle, tout jeune encore.
Qui est un général de brigade. Voilà. Donc voilà ses médailles, une partie de ses médailles. Légion d'honneur à titre militaire, ce qui est assez très rare. La croix de guerre avec palme, médaille de la résistance, croix de Lorraine et rosette de la résistance, qu'elle a revendue d'ailleurs au profit des combattants. Donc vous voyez, donc c'est quand même quelqu'un qui a. Elle est sortie quand même sous-lieutenant des filles de l'air de la guerre, quoi. C'est-à-dire, c'est. Et là, elle chante sur les Champs-Élysées, c'est une fleur de Paris, qui est la chanson de la libération de Paris. Voilà.
C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans dans nos cœurs, elle a gardé nos couleurs.
Et voilà, ça c'est donc la prise.
C'est une photo très impressionnante. Voilà, est-ce qu'on reconnaît le mall de Washington?
La grande marche donc de Washington, 63. Ouais. Elle est rayonnante, elle a 58 ans.
C'est-à-dire qu'elle était au discours de Martin Luther King, I Have a Dream. C'était ce jour-là.
Absolument, absolument. Et elle prend la parole. Quand le pasteur King a été assassiné en 1966 à Memphis, sa veuve a proposé à Joséphine Baker de prendre la relève du mouvement. Donc c'était déjà un grand honneur pour quelqu'un qui avait vécu une grande, très grande partie de son existence en France. Donc à ce titre, Joséphine a refusé non pas par manque de courage physique, elle l'a prouvé pendant la guerre, mais tout simplement parce qu'elle ne voulait pas risquer de faire 12 orphelins de plus une deuxième fois. C'est la seule raison. Ben, c'est rare des femmes qui ont
des stars de showbiz qui se présentent comme entraînement combattante multimédaillée pour défendre, pour lutter contre la déségrégation.
Bien sûr, mais si on veut avoir accès à la complexité de Joséphine Baker, qui est quand même un personnage complexe, c'est cette histoire dont ce code d'accès, c'est la reconnaissance éternelle. Hein. Les mots ne sont pas vains, là. C'est voilà. À son chef suprême, d'abord, De Gaulle. Elle défilera pour De Gaulle en 68, au pire des événements contre De Gaulle.
Oui. C'est-à-dire dans la manifestation de soutien, celle où on voit Malraux qui était tout bousculé.
Elle est là avec mon frère aîné. Donc elle est devant, elle fait le V de la victoire. Alors qu'on est en train de tout perdre, nous, au Milan. Elle, ni une ni deux, elle fonce à Paris, elle remonte les Champs-Élysées. Ce qui fera dire malicieusement, et je trouve ça avec beaucoup d'humour, à un journaliste. Elle a commencé avec les bananes et fini avec le régime. Ce qui était très joli comme mot. Voilà. Mais Joséphine ne se départira jamais de son admiration pour son chef suprême, ce qu'on appelait les gaullistes historiques. Hein. C'est-à-dire pas les gaullistes politiques, les gaullistes historiques. C'est-à-dire les premiers à rejoindre ou à vouloir rejoindre De Gaulle en Angleterre.
Freedom! Freedom!
France Inter, 24 août 1963.
Une série d'artistes étaient venus spécialement à Washington pour supporter de leur présence cette manifestation. Entre eux, notamment, Joséphine Baker, qui était venue de Paris, et Burt Lancaster. J'ai eu la chance de pouvoir m'approcher de Joséphine Baker. Vous savez que ce n'est pas une chose facile en ce moment, car une foule considérable nous séparait de cet artiste. Voici ce que Joséphine Baker nous dit au sujet de cette manifestation de Washington.
Tous les hommes d'ensemble, tout, de tous les pays du monde entier, tout le monde est venu aujourd'hui pour se présenter en frère, tous ensemble, de toutes les couleurs. Et je suis heureuse parce que ça, pour moi, ça m'a donné raison d'avoir combattu pour cette merveilleuse victoire pendant les longues années.
Pensez-vous, Joséphine Baker, que cette manifestation aura des résultats immédiats et positifs?
Certaines de ces vies sont déjà... C'est une chose faite, ça. Maintenant, c'est le temps qui va faire le reste. Mais j'en suis sûre, quand on voit ça ici aujourd'hui, c'est fait.
Voilà comment sert le Panthéon pour la nation française. Voilà son véritable rôle. Vous avez des questions, oui? Pas d'autres questions? Eh bien, alors, je vais vous laisser continuer de votre côté maintenant votre visite, messieurs, dames. Merci bien. Merci.
Et monsieur le guide, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la nomination de Joséphine Baker?
Ah ben, à voir si finalement ce sera vraiment elle qui rentre au Panthéon, mais c'est vrai que c'est un destin exceptionnel et qu'elle aurait une parfaite place ici au Panthéon, moi pour moi en tout cas, mais... je suis qu'un simple employé ici, je peux pas, je ne suis pas un plus haut niveau.
Pourquoi elle aurait sa place d'après vous?
Alors ma Joséphine Baker, on la voit toujours avec l'arrivée dans les années folles, elle révolutionne le music hall, il est vrai, mais aussi après, elle prend cet amour de la France et elle devient une très grande résistante, hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'a un peu oublié, mais c'est un personnage assez fort de la Seconde Guerre mondiale pour ses actes de résistance. Donc, elle mériterait parfaitement une panthéonisation, c'est vrai.
En plus, c'était une femme qui a choisi d'être française.
Tout à fait. Cette volonté de choisir la nationalité française, c'est aussi une marque impressionnante de reconnaissance pour notre nation. Et ça fait un parfait exemple de l'intégration à la française aussi pour la panthéonisation. C'est ça l'avantage. C'est que tant que vous avez la nationalité française, quelles que soient vos origines, vous pouvez être panthéonisé, quoi qu'il arrive. On a toute la nation française en bas au Panthéon.
Je vous remercie beaucoup.
Merci bien.
Merci encore.
Merci.
Entre ici, Joséphine. Joséphine Baker au Panthéon, c'est un reportage de Guy Vanctil. Merci à Jean-Claude Bouillon-Baker. Merci à Régis Debray, à Monsieur François, merci à Marie Chauveau et à Stéphane Place de Lina. Un bouquin à lire de Jean-Claude Bouillon-Baker, justement aux éditions hors collection. Un château sur la lune, le rêve brisé de Joséphine Baker. Et Joséphine Baker contre Hitler, la star noire de la France libre. Un livre de Charles Onana aux éditions Dubois, très intéressant. Ce bouquin qui j'ai appris pas mal de choses en le parcourant. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur le site là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier et Gaël Braouzec. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer. Préparée avec Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin. Attends vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis. Je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Alors, quelle nouvelle? Ils sont toujours enfermés dans le bureau?
Ils sont toujours, je pense que Aurélie Filippetti a dû les prendre en otage.
Ah, c'est ça.
Elle veut les garder pour qu'ils lui donnent des bonnes idées.
Pour faire intervenir les GIGN. Bon, et vous faites quoi, vous, mademoiselle?
Moi, je travaille pour le Théâtre Éprouvette.
C'est quoi le Théâtre Éprouvette?
Le Théâtre Éprouvette, c'est une compagnie qui est... qui est dans la Nièvre et qui a fait des tournées d'alimentation générale culturelle avec cette camionnette, voilà, avec Jean Bochco.
Bonjour à tous et bienvenue devant le ministère de la Culture en compagnie de
Claire.
De Claire, qui fait partie du théâtre de l'Éprouvette et qui se balade avec la camionnette dans la Nièvre d'habitude. Là, aujourd'hui, ils sont montés à Paris, à la capitale, pour obtenir des subventions.
Non, là, c'est encore là. On a prêté notre camionnette au Conseil Général de la Nièvre parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en payer une.
Mais alors, qu'est-ce que vous faites avec votre camionnette d'habitude ?
D'habitude, on fait des tournées dans les villages. On fait comme les piscis, en fait. C'est-à-dire qu'on passe régulièrement. Admettons, si vous habitez dans un petit village, vous dites « Je voudrais bien que la camionnette d'alimentation générale culturelle passe chez moi. » Alors nous, on dit « D'accord, on viendra tous les jeudis tous les 15 jours à 14h30. » Et là, on arrive, on klaxonne, on ouvre la camionnette, et là, sort de la camionnette la proposition du jour, la promotion du jour. Donc ça peut être, il y a eu des chanteurs d'opéra, il y a eu des philosophes, il y a eu des sociologues, il y a eu des...
Des vrais philosophes qui étaient dans la camionnette ?
Oui.
Et donc les gens, ils assistent à ce spectacle ?
Voilà, et comme ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils ne se disent pas « Ah non, moi la musique classique, ça ne m'intéresse pas », donc ils viennent à tous les coups. Et ils sont ouverts à toute proposition, et après, soit ça leur plaît, soit ça ne leur plaît pas, mais comme ça ne dure qu'une demi-heure, ils ne risquent rien.
En général, il y a combien de personnes ?
Ah bah c'est très variable, mais comme on fait 8 arrêts par jour, en fait, on fait tout un parcours avec notre camionnette, ce qui fait qu'on peut arriver à toucher 800 personnes en une semaine, quoi.
Mais alors comment vous gagnez votre vie ? Parce que les gens, ils viennent, vous les faites payer, vous faites passer le chapeau ?
Non, nous c'est gratuit, même pour les riches. C'est notre slogan depuis des années.
Et alors pourquoi il y a marqué l'abbaye du jouir sur votre camionnette ?
Eh bah c'est parce qu'on considère que la culture doit être une jouissance. La culture, c'est pas emmerdant. Il faut considérer la notion de plaisir dans la culture.
Et vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 32 ans.
Et ça fait combien de temps que vous êtes dans la camionnette ?
Dans la camionnette, ça fait 3 ans, mais dans le théâtre Éprouvette, ça fait 10 ans.
Vous me dites que c'est gratuit, même pour les riches. Mmh. Comment vous gagnez votre vie ?
Bah, nous, on braque le ministère de la Culture une fois de temps en temps.
Vous avez droit à une petite subvention ?
Bah ouais.
Et alors là, vous êtes venu pour essayer de quoi ? D'augmenter votre subvention ?
Non, là, c'est pas nous. Ouais. Là, c'est le Conseil Général de la Nièvre.
D'accord. Qui votre subvention, vous êtes content ?
Bah, nous, on passe par les circuits habituels. Et puis, nous, ça, on n'a pas besoin de beaucoup, en fait.
Et combien vous avez, alors ?
On est une petite structure. Bah, nous, vous savez quoi, la DRAC de Bourgogne, le ministère de la Culture décentralisé en Bourgogne, un jour, ils nous ont dit « Vous n'avez pas assez, il faut qu'on vous donne plus, vous ne demandez pas assez. »
Ah.
Incroyable.
Alors vous avez demandé plus ?
Alors on a dit bon bah d'accord, si vous voulez nous donner plus, allez-y. Hein.
Parce que ils vous donnent combien ?
En 2013, ils nous ont donné 40 000 euros.
Et avec 40 000 euros, vous êtes combien au théâtre de l'Éprouvette ?
Eh bien au quotidien, on est deux. Et après, on embauche plein de gens qui travaillent avec nous un peu plus régulièrement. Quoi.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer au théâtre de l'Éprouvette ?
C'est que j'ai entendu qu'il y avait une compagnie quelque part à la campagne qui avait marié des artistes avec des villages. En l'an 2000, ils avaient fait un truc qui s'appelait 32 plus 32 égale 2000. Et voilà, quelqu'un m'a dit « Oui, voilà, là-bas, il marie des artistes avec des villages. » Je me suis dit « Ah ouais, ça a l'air sympa. » Et du coup, je suis allée. Et j'ai été embauchée. J'ai fait un stage et puis après, j'ai été embauchée.
Et alors, n'importe quel village de la Nièvre peut vous appeler en disant oh bah, quand est-ce que j'aimerais bien que vous veniez faire un spectacle, apporter de la culture dans mon village. Et à ce moment-là, vous venez ?
C'est pas seulement les villages, ça peut être même quelqu'un en particulier. Par exemple, on va dans les cours de ferme. Donc voilà, les gens, il faut juste qu'ils soient d'accord pour qu'on vienne les voir pendant une certaine période, pendant 4 mois, tous les 15 jours.
Ah oui.
Et voilà. Et après, il y a des gens qui râlent, qui disent oui, mais c'est dans la journée, c'est en semaine, je peux pas. Mais il y en a d'autres que ça arrange beaucoup. Par exemple, les agriculteurs, eux, ils peuvent jamais aller au spectacle le soir au théâtre parce qu'à 20h30, eux, il faut qu'ils s'occupent des vaches, c'est pas le moment. Et mais par contre, nous, si on se pointe à 11h du matin, c'est impeccable. C'est...
Ah oui.
Puis ils peuvent venir tel quel en tenue de travail, profiter de notre promotion du jour et retourner au boulot sans être trop dérangés.
Ce que je comprends pas, c'est pourquoi votre camionnette, elle est immatriculée en Bretagne ?
Parce qu'on l'a acheté d'occasion à une dame qui faisait des petits gâteaux en Bretagne et qui l'a vendu par amour parce que son mari est marin au long cours, il est mécano sur des gros bateaux pétroliers. Et puis elle n'avait jamais le temps de le voir quand il revenait de ses voyages parce qu'elle travaillait dans son camion à vendre des petits gâteaux. Du coup, elle a décidé
d'arrêter
de vendre son camion.
Et d'attendre son mari.
et d'attendre son mari comme une vraie femme de marin.
Si on habite la Nièvre et qu'on a envie de voir le théâtre Éprouvette, on peut aller où ?
À l'abbaye du Jouir.
C'est un bâtiment et là de temps en temps il y a des spectacles dans ce.
Et bah là nous on travaille toute l'année et puis de temps en temps il y a des spectacles parce qu'il y a aussi d'autres compagnies qui sont dans la même dans le même lieu. C'est un lieu culturel.
D'accord. Si on veut en savoir plus, théâtreéprouvette.fr.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Toi, elle roule ta mécanique.
Pas plus de 5000 km par an, c'est suffisant.
Bon, comme ça, à la Matmut, tu payes moins.
Je roule moins, je paye moins.
Et tu ménages ta mécanique.
Ça, c'est sûr, la Matmut, elle assure.
Offre tarifaire soumise à conditions, disponible en agence ou sur matmut.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité avec Maxime Deps.
Et direction Sotchi, tout de suite avec les épreuves qui se poursuivent après la magnifique performance des skieurs, auteur d'un doublé en début d'après-midi en slalom géant. Steve Missilier a pris l'argent, Alexis Pinturault le bronze. Et en ce moment, la délégation française a une nouvelle occasion de prendre des couleurs dans le relais mixte du biathlon. Un certain Martin Fourcade est notamment attendu. On retrouve tout de suite à Sotchi Julien Laurent. Alors Julien, comment ça se passe pour nos bleus ?
C'est moyennement parti pour l'équipe de France de biathlon, ce relais mixte. C'est une grande première dans l'histoire des JO, dans cette discipline du biathlon. Les deux premières relayeuses, puisque ce sont les filles qui ont ouvert ce relais, n'ont pas très très bien entamé ce relais avec Marie Dorin, auteur notamment de deux fautes sur le pas de tir, sur ces deux sessions de tir à la carabine, et surtout Anaïs Bescon derrière, qui a raté pas moins de quatre tirs. Elle est pour l'instant à la 9e position, à 1 minute 16 de la tête, avant de passer le relais au premier Rome, au premier Français de ce relais mix. Ça sera Jean-Guillaume Béatrix et ça sera ensuite Martin Fourcade qui bouclera, on l'espère, le finish pour au moins une médaille dans ce relais mix. Mais pour l'instant, c'est assez mal embarqué pour les tricolores. On sait que Martin Fourcade est un très gros finisseur en ski de fond. Mais là, avec quand même aussi une minute de retard sur le podium actuellement, ça risque d'être quand même assez compliqué. Mais le biathlon est toujours très aléatoire, donc rien n'est joué avant la ligne d'arrivée. Ça sera aux alentours de 16h10.
Merci Julien Laurent en direct de Sotchi. En tout cas, si médaille il y a, ce sera du bonus pour la France qui a d'ores et déjà égalé son record de 2010 à Vancouver avec 11 podiums en tout dans ces Jeux pour l'instant. François Hollande et Angela Merkel sont d'accord, il faut que les auteurs des violences en Ukraine soient punis alors que les affrontements entre policiers et manifestants ont fait 25 morts la nuit dernière. La chancelière allemande aujourd'hui à Paris dit être aux côtés des hommes et des femmes qui souffrent actuellement à Kiev. Angela Merkel qui sera présente en Normandie le 6 juin prochain pour le 70e anniversaire du débarquement. Comme un symbole, la chancelière allemande l'a confirmé cet après-midi. La semaine dernière, Barack Obama avait également accepté l'invitation. L'enquête s'est accélérée, mais cela ne veut pas dire qu'elle est élucidée dans l'affaire de la tuerie de Chevaline. Le procureur de la République d'Annecy calme le jeu. Aucun lien clair, selon lui, n'a pu être établi finalement entre le suspect en garde à vue depuis hier et les différentes victimes. Serge Dassault est lui toujours en garde à vue à Nanterre depuis ce matin. Le sénateur UMP, dont l'immunité a été levée la semaine dernière, est interrogé dans une enquête sur de possibles achats de votes à Corbeil-Essonne, ville qu'il a dirigée durant 14 ans. Une bonne nouvelle enfin pour Airbus, la compagnie étatique Kuwait Airways annonce avoir signé deux contrats avec l'avionneur européen aujourd'hui, l'un pour l'achat de 25 appareils, l'autre pour la location d'une douzaine d'autres avions.
Les dimanches.
Ben, oui, mais c'est trop facile, ça.
À 20h10,
c'est trop propre.
Le masque et la plume.
Je t'ai pas donné la parole, mais tu la prends quand même.
Oui, non.
Jérôme Garcin.
Allez, avançons, on a plein de livres à évoquer ce soir.
Littérature.
C'est tous les clichés, tous les rouages habituels.
Cinéma.
Il y a une scène finale.
Théâtre.
Extraordinaire.
Ah oui, on peut pas raconter
la projection
du film.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la plume.
C'est grandiose, tu respires.
Rendez-vous demain dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter, la voix est libre.
16h04 sur Inter, tout de suite c'est Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Maxime Debs, on vous retrouve dans une heure pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous. Un joli disque qui nous est envoyé par nos amis tchèques, la maison Supraphone, qui édite le violon bohème. Il violino bohémo. Ben oui, il y a des musiciens du pays de Bohème, c'est-à-dire du pays tchèque. Parce que quand on dit la bohème chez nous, bien sûr, c'est la vie d'artiste. C'est la vie dans les petites chambres d'autrefois. Et là, c'est complètement autre chose. Des musiciens qui sont nés assez nettement avant Mozart. Par exemple, František Benda, qui a été d'abord soprano, d'abord chanteur. Il était né en 1709. Il a fait une carrière assez itinérante et il a fini par quitter Prague, certainement pour des raisons religieuses, parce qu'il s'était converti au protestantisme, et il a vécu à Vienne, à Varsovie. Il est entré, enfin, là c'était la sécurité, au service de Frédéric II, dit le Grand, le roi flûtiste, despote éclairé, et donc autour de lui il y avait plein d'autres compositeurs, dont le certain et fameux Quantz, qui était un flûtiste tout à fait renommé. Voici de František Benda, tiré d'une sonate en do mineur pour violon, solo avec basse, un presto. Benda, un des frères Benda, František, sonate en do mineur, pour violon solo avec basse. La basse, c'était le clavecin, tenu par Václav Lux, avec un violoncelle d'appoint, Libor Mašek, Manuel Archer, et le violon solo, c'est Lenka Torgersen. On trouve sur ce même et joli disque le violon bohème, un certain Jiránek, par exemple, František, dont on sait qu'il a travaillé, à Vienne pour pas mal de patrons. Il a été envoyé par un comte Morzine, qui était un amoureux de la musique, et un patron éclairé. Il a été envoyé à Venise pour étudier, donc peut-être qu'il a été élève de Vivaldi, c'est pas prouvé, mais enfin, c'est probable. Voici donc de František Jiránek un extrait d'une sonate en fa majeur pour violon solo, également Allegro.